France Culture.
Bienvenue à tous et à tous, une heure de Douce France, c'est tout de suite.
Comme j'ai quelque chose à acheter, c'est souvent ici qu'on vient, parce que moi j'ai les deux petites jumelles avec moi, avec la poussette, et c'est vrai que des fois se garer en ville, c'est plus difficile, on a plus de marches. Là on se gare, on est devant, c'est plus concentré quoi.
Il y a un peu de tout, il y a de quoi manger, il y a les magasins, il y a le cinéma, escape game, bowling, il y a un trampoline.
Et puis j'imagine que vous croisez plein de gens ici, tout le monde se rejoint un peu là, non?
Oui, un peu.
Mais c'est normal, c'est un endroit, comment ça s'appelle? Convivial.
C'est un endroit convivial?
Ouais. Bah oui, on se retrouve un peu tous avec nos copains et on fait un peu le tour.
Alors après, c'est vrai que les petits commerces aussi, ils ont leur importance. Bon, mais pour ceux qui ont quelque chose à... Ils savent pas forcément quoi acheter, on fait le tour, il y a vraiment un gros choix de boutiques pour acheter quelque chose, c'est vrai que c'est bien.
C'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet, c'est un peu compliqué. Mais je pense que voilà, si on modernise, si on continue d'innover, après, il y a toujours, voilà, quand on vient en magasin, il y a le contact avec les clients, tout ça, qu'il n'y a pas justement sur Internet. Donc, voilà.
C'était il y a quelques jours à Plan de Campagne. Nous sommes alors en pleine vacances scolaires et la zone commerciale située à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence et de Marseille ne désemplit pas. Cinéma, restaurant, bowling, laser game, enseigne de bricolage, de décoration, de jardinage et évidemment d'alimentation. Les allées des magasins bruissent de badauds, les routes, quant à elles, débordent de voitures. Les adolescents viennent des quatre coins des Bouches-du-Rhône y passer leur après-midi au gré des horaires de bus. Ici, sur les communes des Pennes-Mirabeau et de Cabriès, nous sommes dans la plus grande zone commerciale de France et d'Europe. 50 millions de visiteurs en 2024, 515 enseignes, 60 ans au compteur et 350 000 m2, une zone populaire dans toutes les acceptions du terme qui charrie les superlatifs et la détestation. Symbole de la France estampillée périphérique, celle des lotissements et de la bagnole, mais surtout symbole de cette France moche dont beaucoup ne veulent plus entendre parler et qu'ils souhaiteraient voir disparaître. En 2023, face à la vacance des beaux commerciaux, l'État a lancé un appel à projet pour imaginer les zones commerciales de demain. Il y a un an déjà, 74 espaces sur les plus de 1500 que compte la France ont été sélectionnés pour mener cette réflexion, dont Plan de Campagne. Imaginé dans les années 70, ce serait donc un modèle à bout de souffle selon certains qui y voient poindre le risque de friche industrielle à l'heure où le commerce en ligne explose. Un modèle à réinventer pour d'autres qui ne croient guère à la fin de ces ersatz de places de village qui représentent 72% des dépenses en magasin des Français et auxquelles ils restent profondément attachés. Au sommaire de Douce France cette semaine, zone commerciale, quel avenir pour la France moche? Venez, je vous emmène. Bonsoir Elodie Bitsindou.
Bonsoir Nora.
Vous êtes doctorante en histoire de l'architecture contemporaine au centre Chastel, rattaché à Sorbonne Université, et vous bouclez une thèse en histoire de l'architecture intitulée « Les maisons Lévites, transfert, hybridation, usage et acculturation du modèle Lévite France ». Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les maisons Lévites, c'est un peu comme Kaufmann et Broad, et c'est une histoire de l'architecture à l'épreuve des espaces périurbains que, avec un peu de chance, vous allez pouvoir... Soutenir d'ici quelques mois, c'est bien ça?
C'est bien ça, en juin, j'espère.
On a hâte de vous lire. Fabrice Raffin, bonsoir.
Bonsoir Nora.
Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université de Picardie Jules Verne, chercheur au laboratoire Habiter le Monde de l'université, responsable scientifique d'une recherche sociologique menée pour le ministère de l'écologie entre 2012 et 2017 sur la zone commerciale de Noyelles-Godault, c'est près des Nains-Beaumont, et c'est la deuxième, semble-t-il, zone commerciale de France après, justement, Plan de Campagne. Bienvenue à tous les deux. La France moche, et je prends des guillemets à chaque fois dans cette émission pour utiliser ce terme, c'est la une de Télérama en 2010 qui a fait grand bruit autour de ses entrées de ville et de ses zones commerciales. C'était à l'époque aussi la floraison des lotissements après l'essor des autoroutes, la multiplication des hypermarchés, des moyennes surfaces, etc. Il parlait à l'époque de métastase urbaine, mais on vient de l'entendre dans le micro-trottoir qui a été fait donc un Plan de Campagne. Finalement, Fabrice Raffin, ces espaces, ils sont quand même désirables.
Alors, il faut relativiser. Disons que la France, le beau des uns n'est peut-être pas le beau des autres, et donc le moche des uns n'est pas le moche des autres. Et c'est vrai que sur le terrain, moi, j'ai souvent rencontré cette en tout cas cet attachement hein, aux espaces, cet attachement, alors un attachement pour tout ce qu'on peut y faire, mais aussi un attachement pour l'esthétique, pour l'architecture, alors on va pouvoir préciser, mais surtout cette capacité à se reconnaître en tant qu'habitant dans sa zone commerciale, hein, dans son espace commercial. J'ai pas mal travaillé avec des groupes de jeunes 18-25 ans, et dès qu'on les laisse parler, ils se répandent, ils s'invectivent, oui mais moi j'ai telle enseigne, ma zone commerciale en gros elle est mieux que la tienne, et voilà, donc ça construit.
Il y a un rapport d'appartenance.
Oui, tout à fait. Il y a la dimension même identitaire et ça crée des géographies urbaines, des représentations de la ville. Voilà, donc ça fait vraiment, tout simplement, ça fait repère, quoi. Repère au quotidien dans la vie des jeunes et des moins jeunes.
Oui, alors on l'entend, hein, Elodie Bitindou, c'est des jeunes, beaucoup des adolescents, des familles. Je parlais en introduction d'une presque place de village. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez les choses ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu une double casquette. Je suis à la fois chercheuse sur le sujet, plutôt des lotissements, mais sur ce qui rentre dans la France moche en général. Et je suis aussi habitante. Et en tant qu'habitante, oui, je peux vous dire qu'il y a vraiment des liens qui se créent. Vous recroisez des gens que vous connaissez, que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vous avez votre zone commerciale favorite. Il y a vraiment un attachement, comme le disait Fabrice, une vie quotidienne qui se crée dans des espaces qui sont complètement fermés, anthropisés. C'est un peu l'inverse de la place de village à ce niveau-là. On est toujours voilà, dans ces espaces sous lumière artificielle, entre toutes ces enseignes qui sont souvent des grandes chaînes avec des produits de grande consommation, pas forcément de très bonne qualité, etc. Mais pourtant, au milieu de tout ça, il y a une vie, des échanges qui se crée au quotidien.
Alors pourquoi, eu égard à ce que vous nous dites, c'est des liens, c'est des places, c'est des espaces de rencontre, ce sont des imaginaires qui se construisent et une dimension affective profonde. Pourquoi un tel mépris pour ces espaces ?
Bonne question. C'est une question que je me pose dans le cadre de mes recherches. L'un des axes de réponse, je pense que c'est l'absence, en tout cas jusqu'à il y a peu, parce que c'est en train de changer, mais l'absence de culture qui valorise ce type d'espace, de culture dans le cinéma,
de représentation,
voilà, en photo, en tout ce qui peut créer une vision désirable d'un espace. Moi, j'ai grandi dans une zone pavillonnaire, proche d'une zone commerciale que je fréquentais au quotidien, à Pont-au-Combo.
Mm-hmm. En Seine-et-Marne, limite Seine-et-Marne,
avec l'un des plus grands carrefours de France. Nous aussi, on est dans les superlatifs. Et justement, j'ai grandi en rêvant de la grande ville, en rêvant de Paris, en rêvant de l'architecture haussmannienne. Je me souviens de tous les moments où je rentrais chez moi du collège ou du lycée, où je passais dans ces lieux que j'avais pas appris à regarder, en fait, en me demandant pourquoi je vis dans un lieu où il n'y a pas de beauté. J'étais en quête de beauté, j'étais en quête d'architecture, j'étais en quête d'histoire, et j'avais l'impression de ne pas avoir ça autour de moi. Donc dès que possible, j'ai fui la banlieue, les périurbains, pour habiter Paris. Je me suis retrouvée en plein centre, en plus, donc entre Beaubourg et les Arts et Métiers, donc vraiment le Paris traditionnel, le Marais. Paris,
carte postale, presque.
Le Paris carte postale, voilà. Et donc j'ai fui tout ça, mais par manque de rattachement culturel à ces lieux dans lesquels j'avais grandi. Et en fait, c'est en travaillant sur ces lieux, notamment en découvrant le travail d'artistes, de photographes, c'est pour ça que je dis que c'est en train de changer, parce qu'il y a toute une génération de créateurs, d'artistes plasticiens, d'artistes multimédia qui sont en train de changer complètement ces représentations. Et c'est en découvrant tout ça, en travaillant tout ça, que j'ai senti mon regard changer.
C'est ça l'enjeu, Fabrice Raffin. En fait, on n'en a jamais fait des espaces désirables. Après tout, il faut se souvenir d'une époque où on s'envoyait des cartes postales de grands ensembles. Il faut lire pour ça le livre « On est bien arrivé », compilé par le sociologue Renaud Epstein. Ça veut dire qu'en fait, c'est une question de représentation, essentiellement ?
Oui, alors je vais répondre en réagissant à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que on avait au 19e siècle les mêmes termes pour la ville haussmannienne qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des zones commerciales. C'est-à-dire qu'on a
on disait
textes...
de la ville haussmannienne qu'elle était moche.
Oui, on a des textes de Zola, de Hugo qui décrivent ces quartiers dont on vient de parler comme alors c'est pas le terme exact mais des alignements de boîtes à chaussures, des façades vides qui n'ont pas l'épaisseur et la symbolique de la ville ancienne du Moyen Âge quoi, qu'on a détruit pour construire le Paris d'Haussmann. Et voilà, donc vous voyez la relativité du jugement esthétique sur ces zones. Et puis, en effet, alors bon, je vais pas faire de la sociologie improvisée, mais globalement, ceux qui portent ce discours sont souvent issus des classes populaires et sont dans une trajectoire sociale d'ascension sociale et de volonté d'extraction de leur milieu populaire. Et donc, il y a une sorte, vous savez que le goût, c'est le dégoût des autres, hein, ou le dégoût. Voilà. Donc là, on a la volonté de s'extraire de son milieu social, et puis finalement, on a un peu honte de là où on vient. Et voilà. Donc on a tous ces enjeux qui sont d'où on parle, de quelle époque, de pourquoi, dans quelle finalité, quoi. Mmh. Voilà.
Alors, justement, les zones commerciales sont au cœur de nos modes de vie. On l'entendait à l'instant, Elodie Bitsindou, vous nous rappeliez votre enfance. Depuis au moins les années 70, bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous revenez sur la façon dont ces commerces excentrés des centres-villes ont pris leur place dans notre quotidien et les résistances que cela a pu créer.
Oui Nora, et pour comprendre l'histoire de ces zones commerciales, il faut s'intéresser aux moyens de locomotion qui permet d'y accéder. La voiture qui s'impose, qui envahit tous les espaces disponibles pendant la Reconstruction et pendant les Trente Glorieuses. On parle d'une civilisation automobile incarnée par un président de la République, en particulier Georges Pompidou. Écoutez ce qu'il disait sur le rôle de l'automobile dans l'économie et même au-delà en 1970.
Grâce au développement du réseau autoroutier, on pourra à la fois avoir le réseau économique de circulation intense qui est nécessaire à un pays moderne et puissant, et retrouver par la route et par la voiture individuelle ce facteur de libération qu'elle constituait à l'origine et qui répond profondément à l'individualisme français.
À cette époque, on planifie, on aménage, on réorganise dans l'espace toutes les activités du quotidien. Et donc d'abord, les courses et les achats. Voici comment un journaliste évoquait la construction d'un hypermarché près de Paris en 1971.
Un centre commercial moderne, c'est un parking avec des magasins autour.
Dans les 10 ans qui viennent, la région parisienne sera quadrillée de 15 centres commerciaux identiques. L'escalade dans le gigantisme n'est pas terminée. Le centre de la Défense battra un nouveau record, 120 000 m² de surface de magasins. Tous ces centres seront bâtis sur le même modèle, autour du consommateur automobiliste, car qui veut le client doit offrir le parking.
Alors, passé l'euphorie des débuts, le développement de ce commerce, pensé et conçu pour les automobilistes, est pourtant loin d'aller de soi en termes d'aménagement, de renouvellement, d'entretien. Premier cas de figure, rien à signaler. Comme ici à La Rochelle en 2002, les zones profitent du dynamisme économique local. Le maire Maxime Bonneau en profite pour les agrandir.
Nous avons eu un bel essor démographique. Il y a de plus en plus de monde qui vient à La Rochelle. Il y a 24% de ménages en plus sur l'ensemble de la zone de chalandise. Et tout cela fait des gens qui consomment davantage et nous permet d'avoir plus d'implantations, plus de mètres carrés ou un agrandissement de ce qui existe.
Deuxième cas de figure, les choses sont plus compliquées quand le bassin d'emploi est dégradé, quand la concurrence des zones commerciales en périphérie inquiète les commerçants du centre. Ces problèmes sont posés au moins depuis les années 80. En 2006, le président de la CCI du Mans, Bernard Varin, s'opposait à une extension de zones commerciales en ces termes.
Aujourd'hui, on est dans une période où vous avez un pouvoir d'achat qui n'est pas en augmentation, où vous avez une population qui n'est pas non plus en augmentation dans un département comme la Sarthe. Et puis par contre, on a grandi, on fait des magasins, on accepte toutes sortes de surfaces, ce qui fait qu'un jour ou l'autre, automatiquement, on va faire des friches commerciales.
Alors ce qui apparaît dans ces deux exemples, c'est la logique du cas par cas qui prévaut dans la façon dont ces zones sont pensées et gérées. De nombreux élus s'en émeuvent. Comme ici Jean-Paul Charrier, député UMP et rapporteur en 2008 d'une loi de modernisation de l'économie qui traitait de la réforme de l'urbanisme commercial.
Nous avons essayé de freiner ou d'encadrer le développement des grandes surfaces, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons voulu aussi maintenir le développement des petits commerces en centre-ville, nous n'y sommes pas arrivés. Et en plus, il y a eu des effets pervers, puisque nous avons créé des entrées de ville complètement défigurées. Il est urgent, quand on réforme l'urbanisme dans notre pays, de revenir au bon sens et à l'intérêt général.
Alors Élodie Bitsindou, le député hein, qu'on entendait à l'instant, Jean-Paul Charrier, évoquait des entrées de ville, je cite, défigurées dans cet archive de 2009. La France défigurée, c'était aussi le nom d'une émission de télévision emblématique des années 1970. Donc ça veut dire que depuis le début, on marque son hostilité à ces espaces en ces termes, qui sont pourtant au cœur de notre mode de vie depuis les grandes heures de la civilisation de l'automobile. Ça rejoint un peu votre propos du début de l'émission, mais donc c'est compliqué de représenter ces espaces sous un jour consensuel. Il n'y a pas de vision désirable de ces espaces.
En fait, j'ai l'impression que derrière cette détestation, il y a toujours une idée en sous-texte. Dans la France défigurée, par exemple, la critique de ces espaces, c'était pas... Enfin, la critique esthétique, elle était là plutôt pour dénoncer des espèces d'embryons de conscience écologique qui, à l'époque, se plaquaient sur les questions de cadre de vie parce qu'on n'avait pas encore les moyens, les codes, les données pour aller plus loin. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée de l'envie de s'extraire de sa condition. Il y a toujours quelque chose derrière, en fait. Et je pense que c'est plutôt là-dessus, du coup, qu'il faudrait peut-être s'arrêter plutôt que sur... le fait que ce soit beau ou moche, même si je trouve ça intéressant que la question de l'esthétique de l'espace urbain en général arrive dans le débat public. Et moi, j'aimerais bien revenir en fait sur la couverture de Télérama, parce que je trouve ça assez drôle. Je ne sais pas si vous avez la photo en tête, mais en fait, à mon sens, c'est une photo qui est assez belle. Visuellement, graphiquement, vous avez un jeu sur les couleurs, un jeu sur la superposition des plans.
Vous avez une ligne de fuite aussi de la route et puis deux véhicules en fait en premier plan, dont un en fait qui a une traînée comme si on avait laissé. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Et c'est une assez belle photo. Et d'ailleurs, en faisant des recherches donc sur cette couverture, je suis tombée sur un article du Parisien. Où on a une interview du directeur de la rédaction de l'époque qui expliquait que justement il était en train de construire une couverture qui devait être séduisante en fait et qu'il avait essayé de trouver une belle photo. Et donc c'est un peu paradoxal en fait, on veut représenter un espace emblématique représentatif de la France moche avec une photo jolie. Donc voilà, déjà, je pense qu'il y a des...
Il y a quelque chose à interroger, évidemment, ouais. Sur cette notion de beau et de moche qui, comme on le disait tout à l'heure, est aussi une question d'époque.
Alors Fabrice Raffin, les critiques qu'on entendait dans ces archives de ces zones apparaissent, c'est très marquant, avec l'époque de leur multiplication, et donc l'époque où elles commencent à avoir du succès. Est-ce que ces critiques ne seraient pas un signe paradoxal que, finalement, ces zones commerciales sont vraiment au cœur de nos vies?
Elles sont au cœur de nos vies et je travaille par ailleurs, vous voyez, sur les mondes de l'art, sur la culture, qui sont sans arrêt à la recherche du commun. Hein, le mot à la mode, c'est où est le commun, il faut recréer du commun, etc. Et vous avez cité les chiffres, Nora, 50 millions de personnes, quoi. On n'a pas un centre commercial où on est à moins de 10 millions de personnes par an, quand le Louvre, le plus grand musée du monde, va avoir 9 millions, ce qui est déjà énorme, mais c'est le maximum. Le Macval, c'est 400 000 personnes par an. Vous voyez,
donc le Macval, c'est donc dans le Val-de-Marne.
Dans le Mal, oui, pardon. Et donc, vous voyez, les échelles de où est-ce qu'on vit en commun, c'est en effet dans ces lieux, dans ces espaces commerciaux de masse. Donc là, on est dans l'espace de consommation de masse, et je reviendrai peut-être sur ce terme. Et voilà, donc c'est vraiment notre vie quotidienne à la majorité des Français, si on additionne tous ces chiffres. Vous voyez, 50 millions, c'est presque c'est plus de la moitié de la population.
Oui, mais française. Pour autant, on parle aujourd'hui d'un modèle qui serait à bout de souffle. Vous évoquez qui à l'instant, Élodie Bitsindou, la question écologique, qui est le zéro artificialisation nette, qui conduit des collectivités à dire il va falloir reconstruire la ville sur la ville, et ces friches potentielles que sont, les friches industrielles que sont ces zones commerciales commencent à poser question. On évoque 9 à 15% d'entre elles sont en difficulté, on frise dans certaines 10% de vacances des beaux commerciaux. Est-ce que c'est un modèle à bout de souffle hein?
Je pense que c'est un modèle qui a besoin d'être transformé, mais comme la plupart en fait des espaces urbains qu'on a reçus en héritage du XXe siècle et de la période qui suit la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi des problèmes de vacances à la Défense, par exemple. En ce moment, on en a beaucoup parlé cette semaine. Je pense qu'il y a des choses à réinventer parce que nos modes de vie sont en train de changer, parce qu'on a la question écologique, la question des îlots de chaleur... la question
de la désartificialisation
qui se pose. Donc bien sûr qu'il faut que ça change.
Et peut-être la fin de la civilisation de la bagnole. On entendait cet archive de Pompidou.
Oui, alors ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai du mal à y croire quand même. j'ai du mal à y croire. La fin de la société de consommation, la fin de du tout voiture, c'est pas ce que j'observe au quotidien. Donc c'est.
Oui. Fabrice, oui, si je peux, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que là, on a vraiment un décalage entre le discours idéologique dominant et la réalité des pratiques quotidiennes. C'est quand même effarant. C'est-à-dire que le discours porté par une minorité, je ne nie pas l'urgence climatique, hein, mais le décalage, c'est quand même.
Donc, c'est pas un modèle à bout de course du tout.
Ah, c'est pas du tout un modèle à bout de course. Et c'est même, j'ai un concept que je travaille en ce moment, c'est le consumérisme existentiel. C'est-à-dire que le consumérisme existentiel, c'est la logique anthropologique majeure de toute l'humanité depuis son apparition sur Terre. C'est-à-dire s'éloigner de la dépendance à la nature, entre guillemets, régler les questions de santé, voilà. Et donc là, ces lieux symbolisent ça. C'est-à-dire que c'est les espaces de l'abondance, là où l'humain s'est affranchi le plus possible de sa dépendance à son environnement, c'est là que ça se passe, quoi. Et j'ai juste à aller avec ma voiture de manière très facile, sans aucune difficulté, sortir ma carte bleue et je mange. Vous voyez, c'est ça le truc qui est fou dans l'histoire de l'humanité. Alors que jusqu'à maintenant, pendant la majorité du temps de notre espèce, il a fallu se battre pour accéder à ça. Et là, on ne se bat pas, on y va par plaisir.
Mais ce qui dit aussi quelque chose de nos modes de vie, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ce rapport effectivement à la voiture, l'étalement urbain, c'est un modèle qui a quand même aussi tué nos centres-villes, on l'entendait dans les archives tout à l'heure. Pour autant, on n'est pas prêt aujourd'hui, collectivement, à l'abandonner, même si, d'un point de vue des politiques publiques, il y a une réelle volonté, en fait, de passer à autre chose.
Une réelle volonté, je veux dire, dans la réelle volonté est souvent mesurée à la finance, quoi, au budget. C'est-à-dire que les mesures qui ont été annoncées l'an dernier, on était à quelques millions. C'était
24 millions.
24 millions. Donc c'est quand même pas en proportion avec les enjeux climatiques, environnementaux actuels, quoi. Donc là, au-delà du discours, bon, il faut quand même juger sur pièce, quoi.
Donc ça veut dire quoi, selon vous, qu'on est dans une logique de communication parce qu'il faut envoyer des signaux? En disant que bah, cette France-là, on n'en veut pas, l'étalement urbain, on en a fini.
Je pense que les annonces du gouvernement de l'an dernier, elles étaient plus là pour combler des logiques économiques. Le fait qu'il y ait de la vacance et que du coup, ça tire la sonnette d'alarme pour les propriétaires du foncier et des boîtes, des hangars commerciaux. Et pour ce qui est, pour revenir sur la question de savoir si le modèle est à bout de souffle, si on oublie la voiture et l'artificialisation et qu'on parle juste de la question de la consommation, j'ai l'impression que le modèle des zones commerciales, il est plutôt en train de s'étendre, en fait. De s'étendre notamment au centre-ville, centre urbain. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans un quartier du centre de Paris, vous retrouvez les mêmes enseignes, les mêmes pratiques, la même abondance de la publicité, voire plus. Vous avez parfois des publicités qui prennent des proportions que vous ne trouverez jamais, même à plan campagne.
Donc oui, des publicités notamment sur des monuments historiques
voilà.
Qui sont censés payer justement la réhabilitation de ces monuments. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce modèle finalement, il est en train de s'étaler en centre-ville, y compris dans les centres urbains qu'il est conspu.
Oui, complètement. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher au vrai problème. Pas savoir si c'est les zones commerciales qui sont voilà dépassées, qui sont pas assez belles, qui défigurent les entrées de ville, mais de savoir si on veut changer notre modèle de consommation et du coup en général en fait. Mm-hmm. Parce que l'urbain et le périurbain et le rural vivent tous en fait sur à peu près les mêmes logiques, j'ai mm-hmm. l'impression.
Fabrice Raffin.
Non, moi je pensais à la question comment on fait société aussi, hein, ce qui est un peu à la question est-ce qu'on veut vraiment changer nos modes de vie. Là, je pense que ce sont des endroits où on fait société et il y en a pas d'autres autour de la consommation. Alors on en pense qu'on veut, mais autour de la consommation, la marchandise, l'achat fait société.
Mais il y a aussi du loisir quand on.
Oui, mais
il y a des laser games, il y a des cinémas, il y a des bowling.
Oui, mais il est très souvent payant. Ouais. Il est très souvent payant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la fête de village, la fête des moissons. Vous voyez, on n'a pas fait un truc ensemble. On va consommer. Donc moi je porte pas de jugement, hein, mais je constate que autour tour de... on va avec ses enfants faire un tour de manège, on paye. On va au laser game, on va faire du karting, on va au restaurant, on mange, on paye. Voilà, donc tout est payant. On peut quand même flâner. Alors ça, on pourra y revenir, mais il y a la flânerie est quand même... Le point commun aussi avec, vous vous souvenez de Walter Benjamin sur la flânerie dans le centre de Paris, et ben on retrouve finalement des usages urbains assez similaires. On doit payer, mais on n'est pas obligé. C'est un peu la nuance paradoxale.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
C'était le 11 septembre 2023, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, et la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, je vais y arriver, Olivia Grégoire, ont annoncé un programme national de transformation des zones commerciales. En mars 2024, il y a un an, les équipes sélectionnées pour réinventer ces zones commerciales sont annoncées. Plan de campagne fait partie des 74 zones pilotes. Robert Abella est directeur de la zone commerciale de Plan de campagne. Il représente l'association des propriétaires de la zone, notamment beaucoup de foncières. Et j'ai été lui demander quel pouvait être l'avenir de cette zone. On l'écoute.
Plan de campagne, c'est déjà la zone familiale et populaire de la région. Alors, c'est une ville, ça fonctionne comme une ville. Il y a les mêmes problématiques qu'une ville, sauf qu'il manque une mairie, une église. En gros, voilà, et on a les mêmes problématiques. On gère les mêmes choses. On gère des routes, on gère des locaux, on gère des bâtiments, on gère des humains, voilà, donc c'est une grande ville quand même, parce que c'est aujourd'hui en gros 150 000 visiteurs tous les jours, voilà, donc 7 000 employés, voilà, donc des voitures, des cars, tout ce qu'on peut retrouver dans une ville moyenne, hein, voilà, donc ça fonctionne comme une ville.
Ces zones commerciales aujourd'hui, elles sont quand même pas trop le vent en poupe. Et d'autre part, il y a des plans de réhabilitation qui sont mis en œuvre sous la tutelle justement de l'État, hein, pour faire en sorte d'accompagner vers une forme de changement ces espaces, pour peut-être qu'elles deviennent à terme de vraies villes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Si vous voulez, moi ça fait une dizaine d'années que je dis que la zone commerciale de Plan de campagne aujourd'hui doit changer. Plan de campagne a répondu l'année dernière à l'AMI, c'est donc l'appel à projet de l'État, elle a été retenue donc parmi les zones retenues en France. C'est maintenant la métropole qui va mener ce dossier donc avec les acteurs de la zone. Et quand je dis la rénovation, c'est aujourd'hui apporter des infrastructures, apporter de l'embellissement, apporter de la rénovation. Mais ça va être beaucoup plus important, beaucoup plus profond. C'est-à-dire que demain, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ces zones commerciales ? Comment le commerce va évoluer ? Comment il va changer ? Le commerce change aujourd'hui. Le commerce d'aujourd'hui ne sera plus du tout le même commerce que dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, il va évoluer, il va changer. Le e-commerce pousse à changer, le commerce par Internet pousse à changer, le commerce physique va bouger. Donc si on ne se dit pas ça et si on ne le comprend pas, entre 5 et 10 ans aujourd'hui, on aura des fiches commerciales. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens au chômage et on va avoir des locaux vides et une zone commerciale en friche. Donc c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de prendre du recul et réfléchir comment doit être le commerce de demain. C'est vraiment cet enjeu-là. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir autour du commerce de demain ? Est-ce qu'il doit y avoir du logement ? Est-ce qu'il doit être accompagné de loisirs ? Est-ce qu'il doit être accompagné de bureaux ? Est-ce qu'il doit être accompagné d'hôtels ? Est-ce qu'il doit être accompagné de beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, une ville ? Moi, je dis oui, et je le dis depuis 10 ans. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai dit ça, je l'ai dit à la CPA, la Communauté d'agglomération du Pays d'Aix, je l'ai dit il y a 10 ans à la Chambre des commerces.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez dit aux élus des Pennes-Mirabeau et de Cabriès, on va faire sécession et on va créer la ville plan de campagne.
Alors, pas sécession, mais pourquoi pas moi, j'ai même dit le principauté. Alors, pourquoi pas créer une principauté ? Non, on a besoin de tous les acteurs. On a besoin de tous les acteurs autour de la table. On a besoin des collectivités, on a besoin des mairies, on a besoin de la métropole, on a besoin du département, on a besoin de la région, qui est quand même, au moment donné, celui aussi qui est le pilote de l'économie dans la région. On a besoin de tout le monde autour de tout ça. Donc la restructuration, la désimperméabilisation, la rénovation, la reconstruction de cette zone-là, elle passe par effectivement tous ces acteurs, y compris les propriétaires qui sont aujourd'hui propriétaires des terrains, propriétaires des murs. Donc ça doit se faire ensemble. Et ça doit se faire ensemble, j'ai envie de dire, dans le temps et rapidement. Il y a déjà des choses qui ont été enclenchées, le BHNS, Alors bien sûr, le bus a au niveau de service qui va arriver, qui sont du transport en commun, qui arrive de Berre et qui va arriver sur le plan de campagne toutes les 10 minutes. La halte ferrée, les pôles d'échange multimodal, les cars et le train, ce qui était vachement important parce qu'on apporte à l'intérieur de plan de campagne du transport en commun, donc une autre façon de se déplacer pour les salariés, pour les clients. Voilà. Donc si aujourd'hui, pour les villages, pour les villes, c'est le point où va converger tout le monde pour aller travailler. Que ce soit pour plein de campagnes, que ce soit pour la Durane, que ce soit pour Gardanne, que ce soit pour Berre, les Pins Mirabeau, Marignan, c'est le centre de tout ça. Voilà, donc c'est ce maillage-là qu'a voulu faire la métropole. C'est pas une halte ferrée ou un pôle multimodal pour plein de campagnes. Ça va servir à plein de campagnes, bien sûr. Et c'est vraiment, pour moi, le carrefour du déplacement de la métropole.
Vous êtes directeur de plan de campagne et vous êtes par ailleurs, vous le disiez, vous avez été agent au Pins Mirabeau, mais vous êtes aussi élu à l'urbanisme à Cabriès. D'aucuns disent qu'il y a une forme de mélange des genres qui est malvenue. Qu'est-ce que vous répondez ?
Je dis non, je dis que j'ai toujours travaillé pour l'ensemble de la zone. Je travaillerai toujours pour l'ensemble de la zone jusqu'à ma retraite. Je ne sais pas qui dit au moment donné que celui qui le dit démontre sur quoi. Et je vais être très, très clair là-dessus. Depuis mon arrivée, j'ai toujours habité Cabriès, j'ai travaillé sur les Pins Mirabeau. Si on prend aujourd'hui l'état du développement de la zone, depuis 10 ans, il s'est fait beaucoup plus sur les Pins Mirabeau que ce qu'il a pu se faire sur Cabriès. Puisqu'en gros, on a fait le compte ce matin, on a fait une réunion, il s'est développé pas loin de 40 000 m² sur les Pins Mirabeau en 10 ans, alors qu'il s'est développé que 6 000 m² sur 7 000 m² sur Cabriès en 10 ans. Voilà, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Voilà, c'était Robert Abella, le directeur de la zone commerciale de plan de campagne. Il nous dit beaucoup de choses, Elodie Bitindou, le directeur, cette nécessité finalement de reconstruire une ville, presque un centre-ville. Il manquerait que l'église, puisque le hub de transport va être fourni par la métropole. Ça va devenir le nouvel espace de centralité du département des Bouches-du-Rhône. On va peut-être faire du logement, on va désimperméabiliser, désartificialiser.
On est tout à fait dans la logique du ZAN, en fait.
Le zéro artificialisation net,
assez difficile à dire. On est tout à fait dans cette logique où on est dans une... On anticipe la pénurie de foncier à venir, enfin qui est même déjà là.
Et la crise du logement.
Et la crise du logement. Je pense qu'on est plutôt sur des logiques de pénurie de foncier et de logique économique, comme je disais tout à l'heure. Le positionnement social et professionnel du directeur de la zone commerciale de plan de campagne illustre bien cela. En fait, c'est tout à fait dans son intérêt, dans l'intérêt de ses activités. Que la zone continue à vivre, d'aller au-delà de cette vacance. Et du coup, étant donné qu'on... Pour le coup, je pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'on est quand même dans une forme d'impasse, de transformer les usages. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à beaucoup de projets de rénovation urbaine, en fait, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, où le cadre de vie est presque un prétexte pour ce qui se passe.
Y a après aussi une vacance des baux commerciaux et puis une transformation des usages avec Internet. Donc tout ceci a forcément des incidences sur les commerces, Fabrice Raffin.
Oui, alors j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi,
je vous en prie.
Ce qui attire mon attention de sociologue, c'est le fait qu'on passe sous silence un truc énorme, c'est-à-dire le fait que l'église et la mairie soient pas là, quoi.
Ils ont pensé à faire une principauté.
Oui.
Voilà. Mais on voit bien qu'on recrée une ville finalement.
Et le parallèle de ça, c'est le politique qui se prend pour le créateur de la ville. C'est quand même ça, toujours très étonnant. C'est très étonnant. C'est-à-dire que la ville, qui l'a produit? Qu'il a fait, le politique, c'est un acteur, mais il a, c'est vrai, très souvent tendance à se penser comme le faiseur de ville. Et Richard Sennett a des mots très durs pour ces faiseurs de ville et tous leurs acolytes, les urbanistes et autres. C'est le génie de la stérilité. Cette ville factice, cette ville artificielle fondée sur la marchandise. Peut-être qu'à un moment donné, il nous manque ce sacré, il nous manque cette épaisseur anthropologique, humaine, la représentation à moins, Et je pose la question, que ce soit la marchandise qui soit sacralisée et qui vient compenser cette disparition du symbolique sacré. Quoi.
Mais ce qu'on entend aussi, c'est que on est face aujourd'hui à des espaces qui ont été créés par des propriétaires privés. Je rappelle, ce sont des foncières, donc ils possèdent le terrain. On essaye aujourd'hui, d'un point de vue collectif, de pousser à une forme de réhabilitation, à repenser ces espaces. Sauf que là, on n'est plus dans les espaces du commun dont vous parliez tout à l'heure. On est dans des espaces qui sont privés, avec des intérêts privés, où le public vient et gère les aménités. Donc, on ramasse les poubelles, on organise des gares et donc du trafic. Et donc, là-dedans, en termes de gouvernance, ça pose question.
Eh oui, moi, j'aimerais pas être à la place des élus qui se donnent pour mission de faire la ville quand on est dans des espaces privés et du foncier qui leur appartient pas vraiment.
Oui, mais là-dedans, on voit que même malgré les erreurs que ont pu faire ce privé qui, en fait, a mis en place ces zones commerciales, et c'est des centaines de milliers de mètres carrés qui ont été artificialisés, à un moment, c'est bien le public qui va avoir à gérer ces friches industrielles.
Oui, parce que les deux ne peuvent pas être déconnectés de toute façon, vous avez raison. Donc, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus.
C'est... Mm-hmm. Elodie Bitsindou, là-dessus, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'une problématique de qui a la main pour gérer, en fait, ces espaces. Est-ce que ça, c'est nouveau ?
Est-ce que c'est nouveau ? Non, je pense, comme Fabrice, que le public et le privé ont toujours été très liés dans la construction de la fabrication de la ville. Je pense qu'on est peut-être dans un moment où ça devient particulièrement important, où il y a beaucoup d'appels justement de la part des privés, d'appels à la puissance publique pour participer, non plus seulement organiser, mais aussi participer au financement et vice-versa. Il y a beaucoup de besoins du public pour que les privés aussi investissent. Et je pense qu'on est dans un moment où les transformations coûtent tellement cher, on doit tellement changer de modèle que la collaboration devient encore plus importante.
D'après les projections, 60% des surfaces commerciales ne seront plus rentables en 2030. On évoquait la numérisation de nos pratiques, le commerce bouge et on entendait Robert Abella nous dire qu'effectivement le numérique percutait ces zones, cette question des friches industrielles, etc. Mais on voit bien que l'idée est quand même de reconstruire des villes presque à l'ancienne, si je puis dire, sans le clocher et la mairie peut-être, mais il y a quelque chose en fait de cette réhabilitation aussi qui est en train de... On sort de cette logique de zoning qui a été l'aménagement du territoire pendant longtemps.
Oui, et puis le fantasme écologiste est cette ville du 19e siècle en fait, qui est paradoxalement la ville industrielle. Celle où, que Jean-Rémy décrit, où on a une concentration entre les espaces de travail, de résidence, de loisirs, tout à portée finalement...
Sans voiture.
Voilà, donc on est dans ce... Mais vous voyez la réalité qu'on est en train de décrire. Il faudra m'expliquer comment on passe de cette réalité éclatée de zoning qui est, dans laquelle la voiture est indispensable à un retour à ce fantasme du 19e siècle qui est sur une toute autre logique. Voilà, donc là, c'est pareil. Si on pose ça sur la table, on peut commencer à réfléchir peut-être.
Parce que pour vous, c'est... l'enjeu n'est pas posé, c'est-à-dire qu'on se donne le but de sortir de la voiture, de sortir de ces logiques périphériques, de périphérie, avec des métropoles qui auraient des formes de polycentralité, c'est le terme.
Non, ce que je viens de dire est rarement évoqué, en fait. Le modèle qui est derrière, là, qui est historiquement, on part du village et de l'église et tout ça, mais on monte très rapidement à cette espèce de ville qui devrait accueillir, le nombre d'habitants que nous sommes aujourd'hui. C'est très compliqué, quoi. D'une certaine manière, quand même, ces espaces dont on parle répondent à cette situation en termes démographiques et en termes de besoins de consommation. Et c'est pas sans conséquences négatives, évidemment.
Alors, retour dans les Bouches-du-Rhône. Les Pennes Mirabeau, donc, comptent une grande partie du territoire de Plan de Campagne. Michel Amiel en est le maire depuis 2001. Je l'ai rencontré.
Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que Plan de Campagne est moribond. Je pense simplement que Plan de Campagne va évoluer, va se rénover avec des nouvelles activités qui ne seront plus seulement commerciales. J'ai presque envie de dire même que le développement à venir de Plan de Campagne, c'est tout sauf le commerce désormais. Enfin, en tout cas, le commerce, si on fait de l'habitat, il faudra du commerce de proximité qui n'existe pas forcément aujourd'hui, ou du moins qui est embryonnaire. Après, Plan de Campagne n'évoluera pas selon un mode luxueux. Dans les différents développements commerciaux qu'il peut y avoir, vous ne verrez pas Hermès ou LVMH. Ça, c'est une certitude.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la logique de mixer ces publics-là. Et il y aura les zones commerciales pour les classes pop, si vous me permettez le raccourci. Et il y aura les centres-villes un peu mignons, un peu jolis pour les autres.
Ah, je crois qu'on n'est pas très loin de la réalité. Je crois qu'on n'est pas très loin de la réalité. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder. Allez vous balader à plein de campagnes, un moment où il y a un petit peu de monde, y compris dans les galeries, par exemple, avant Cap, qui est plutôt sympa. Enfin, c'est joli, c'est propre. On voit bien que ce sont des classes populaires qui viennent. Et effectivement, les commerces un peu luxueux, pour, comme vous dites, les SP+, ben vous allez les voir dans les rues que l'on connaît bien à Aix-en-Provence, ou dans un peu moins encore à Marseille, rue Paradis, etc. Oui, sur ce plan-là, oui. Le projet qu'avait essayé de faire au Falsbourg dans ce fameux triangle de friches industrielles aurait pu faire évoluer les choses dans ce sens. Mais le projet a capoté, il a été attaqué tout le monde, y compris par les services de l'État, pour des prétendues raisons de sécurité, de circulation, de voirie. Et on s'aperçoit que le projet qu'il lance avec de l'habitat, qui amènerait un nombre considérable de véhicules et d'habitants supplémentaires, là, il ne tique pas. Mmh.
Ce qui dit quand même qu'il y a une vision un peu particulière sur ces zones, on sent quand même une volonté de la part de l'État d'assécher en fait ce modèle-là. Donc vous n'y croyez pas. En fait, ça continuera d'exister et le bitume et le kilomètre et la bagnole et ses usages en fait des zones commerciales, vous n'y croyez pas à leur mort.
Bah, le projet, c'est de reprendre tout simplement la galerie marchande de Jean Casino et sa périphérie, et de refaire quelque chose qui va un peu plus dans l'air du temps, y compris dans l'imperméabilisation des sols, avec du commerce, avec de la restauration. D'aucuns trouvent qu'il y aura trop de restauration, mais bon, après, c'est les choix commerciaux. C'est quelque chose qui peut donner un second souffle. Maintenant, redessiner un plan de campagne avec des arbres, des forêts, des petits oiseaux, c'est mon rêve, hein, mais j'y crois pas, je suis quelqu'un de réaliste. Et puis quand vous parlez de la volonté de l'État, je me rendais plus vraiment compte que l'État avait encore une volonté. On est dans un État qui est faible. Quand on est, comme moi, en pleine période de budget, qu'il faut le boucler en équilibre, parce que toujours bon de rappeler que les maires doivent fournir un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État. Et on est au cœur du sujet, vous savez. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, j'ai envoyé une vanne envers la volonté de l'État, mais c'est envers les décideurs politiques. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une désaffection citoyenne du monde politique, parce que les gens, ils n'ont pas totalement tort, ont l'impression que les politiques ne peuvent plus rien, ou plus grand-chose. C'est un constat pessimiste, mais qui est bien réel. On n'est plus vraiment aux commandes. Ce sont des intérêts commerciaux, parfois relayés par des intérêts politiques, mais là, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de considération, mais effectivement.
Et j'ai une dernière question, monsieur le maire. Vos administrés, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça ?
Plan de campagne, ça fait partie de l'existence locale. Il n'y a pas d'enjeu politique. La zone est là, elle existe. On y va quand on en a besoin ou simplement pour... moi, je préfère aller à Sainte-Victoire. Mais après, chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui vont flâner à plan de campagne le dimanche. Voilà.
Ça raconte quelque chose, en tout cas.
Oh non. Écoutez, entre les calanques marseillaises, la Sainte-Victoire, la Camargue, je ne peux pas vous dire que les gens n'ont aucun endroit pour aller. Je ne parle même pas des endroits culturels, hein, on est sur France Culture. Vous avez l'air de dire que les gens n'ont aucun endroit pour aller flâner, ben c'est terrible, c'est dans l'esprit des gens. Alors, il est vrai que moi qui suis un vieux maintenant, je n'ai pas dit un vieux comme, enfin je le pensais tellement éloigné de la tablette, de la télé, de... Enfin, voyez nos jeunes, quand même, c'est une catastrophe. Ah, ils vont à plein de campagne, puis quand ils rentrent à la maison, ils se mettent sur leur tablette, ils ont passé un bon dimanche.
Mais oui, mais on est dans une société de consommation, monsieur le maire. Vous le découvrez pas ?
Ah ben non, je ne découvre pas. Moi, je suis un post 68 tard, hein, vu ma génération. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais oh, on sera bien obligé de revenir un peu en arrière.
Voilà, vous avez entendu Michel Amiel, le maire des Pennes-Mirabeau, maire depuis 2001, puis il a été sénateur aussi, et il lâche la mairie en 2026. Il nous dit beaucoup de choses, Fabrice Raffin, dont cette idée de flâner, lui qui va à la Sainte-Victoire, qui nous dit qu'il y a la Camargue. Eh ben, les gens, ils vont flâner à plan de campagne.
Oui, ils vont flâner à plan de campagne, mais c'est surtout qu'on les entend pas. C'est-à-dire que vous posez la bonne question, c'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'ils en pensent? Ces 50 millions de personnes qui vont, là, dans ce discours, là, sur la ville, ils sont assez absents, hein, je trouve. C'est quand même un léger problème, peut-être, politique. Et donc, la flânerie, il y a un travail de l'intérieur sur les centres-villes, du centre ancien, dans les années 80-90, qui essaie de comprendre pourquoi les jeunes vont, on disait, zoner à l'époque, comme ça, au centre-ville. Eh ben, il parle à ces jeunes et il a une phrase qui dit « Ici, on se reconnaît en être urbain ». Dans cette centralité, eh ben, je pense qu'il se passe la même chose dans
Qu'est-ce
le centre commercial.
Qu'est-ce que vous voulez dire, se reconnaître en...
Eh bien, quand on est
urbain.
Des banlieues, des cités de banlieue, et qu'on va dans le centre-ville, on éprouve le commun, le fait d'être dans une société, le fait de faire société. On voit les symboles, la mairie, le tribunal, les choses comme ça, le théâtre. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on a le droit d'y aller, qu'on flâne, il se passe rien, on a le droit d'être là. Et on fait partie de cette société.
Ce que vous nous dites, c'est que finalement, on serait dans une forme en miroir de percussion du même ordre. On se considère comme étant d'un territoire parce que, et c'est ce que vous nous disiez finalement, Élodie Bitindou, tout à l'heure, avec votre propre expérience, parce qu'on se reconnaît des mêmes endroits. Pour autant, on n'est pas un être urbain dans ce cas-là. On est un consommateur.
Bah, on est un consommateur, mais en attendant, on y est. On a le droit d'y être. C'est un espace public parce que déjà, il est accessible gratuitement, même si on doit à un moment donné consommer, mais on peut quand même y aller flâner sans payer. Voilà. Donc, et on accède à ce monde moderne de la consommation. Et donc, le fait de pouvoir y aller, en effet, fait partie du processus d'appartenance.
Et Élodie Bitindou, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de se retrouver dans cette position où la société de consommation et donc ces espaces, ces temples, ces nouvelles églises, puisque vous parliez de nouvelles sacralités tout à l'heure, Fabrice Raffin, nous renvoie à une communauté de croyants, mais de croyants à la consommation, ces centres commerciaux, ces zones commerciales comme nouvelles places de village, comme espace de flânerie, il y a quelque chose quand même qui peut interroger sur les valeurs que ça porte.
D'une part, je pense qu'il faut se rappeler que à l'origine du concept de galerie commerçante, on a donc l'Américain Victor Gruen qui pense vraiment l'espace intérieur des galeries marchandes, des centres commerciaux comme des places de village reconstituées dans un environnement climatisé, éclairé. Donc on est en fait dans la même logique, en tout cas dans l'idée
avec
sécurisé, accessible en voiture. C'est un centre commercial, un centre de village, une place de village adaptée aux usages de l'époque à laquelle ils ont été créés. Et ce qui est intéressant, c'est que Victor Gruen, dans les années 60-70, en particulier à l'époque de la création des villes nouvelles en France, vient en tant que consultant pour donner les cartes, aider les concepteurs français à concevoir ces places de village couvertes.
Je vous coupe parce qu'à côté de Pontecombo où vous avez grandi, il y a la ville d'Évry-Courcouronnes qui est la préfecture de l'Essonne, qui est une ville nouvelle, et le centre-ville, la place du village, c'est le centre commercial, le bien nommé Agora.
Oui, et c'est le cas à peu près dans tous les centres commerciaux de villes nouvelles. À Marne-la-Vallée, vous avez la ville tête de Marne-la-Vallée, qui est Noisy-le-Grand, dans laquelle j'habite aujourd'hui, où vous avez cette même fonction du centre commercial, qui est vraiment au centre-ville, qui est intégré dans la dalle, qui a des entrées qui se prolongent ensuite dans les axes principaux du quartier. On est vraiment dans une vraie centralité qui prend cette fonction. Et donc, j'aimerais ajouter un deuxième point, qui est celui on a beaucoup parlé de consommation de sociétés de consommation, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de pratiques qui se passent au-delà. Donc l'accès est gratuit, comme le disait Fabrice. Et il y a tous les espaces d'interstices, l'espace du parking déjà, qui est, je pense, pris d'assaut par de nombreuses pratiques. Vous avez de nombreuses réunions qui prennent place.
Vous avez des pratiques sportives.
Vous avez des pratiques sportives. Vous avez des réunions d'adeptes de tuning, plein de choses spontanées ou organisées qui se passent sur ces parkings et autour de ces parkings. Vous avez énormément de friches d'interstices qui sont justement, et à mon sens, c'est dommage, en train de disparaître justement avec les logiques de ZAN qui font que la ville se refait sur elle-même et qu'on densifie au fur et à mesure. Vous avez tous ces espaces non qualifiés qui sont des espaces en fait de libre appropriation et qui jusqu'à présent étaient utilisés librement avec des pratiques qui passent justement en dessous des radars, qui sont pas enregistrées et où il faut vraiment en faire l'expérience pour voir ce qui s'y passe, et qui sont un peu oubliés.
Mmh. Fabrice Raffin, là-dessus, ça c'est quelque chose que vous avez pu voir dans les zones commerciales, notamment à Noyelles-Godault. Il y a dans ces interstices en fait des usages qui sont très peu vus, oui, qui sont presque invisibles.
Oui, et c'est surtout le rôle de ces usages. C'est-à-dire que très souvent, c'est pour les jeunes, ce sont des espaces où on se construit, hein, par des pratiques, alors qu'elles soient culturelles, tuning, des choses comme ça, voire des pratiques illicites, hein, il faut le dire quand même, en consommation d'alcool et de drogue. Voilà, mais pas, en effet, pas tout à fait sur la zone même. Mais Isaac Joseph, qui était sociologue, parlait beaucoup justement de la différence entre la banlieue et les centres-villes anciens, dans la banlieue, de la disparition de ces espaces où on pouvait se faire des choses un petit peu cachées, mais qui sont très importantes pour les jeunes, dans les espaces de socialisation, en dessous un petit peu du contrôle policier, du contrôle des vigiles, du contrôle de ceci, voilà, qui sont, si on n'a pas ça dans des mondes sociaux, où est-ce que les jeunes expérimentent la rencontre amoureuse, les pratiques que j'évoquais, voilà. Donc il y a les inventions même, inventer des trucs, quoi. Donc c'est très important de ce point de vue-là, et le zéro artificiel, comme le dit Élodie, va un peu à l'encontre de ça d'une certaine manière.
Alors, on évoquait aussi ces zones qui tendent à ne plus être très mixtes. C'est tout du moins la position de Michel Amiel, le maire des Pennes-Mirabeau, qui disait finalement ces zones commerciales vont brasser plutôt les classes populaires et les centres-villes mignons, type Aix-en-Provence ou quelques rues de Marseille, alors si on parle des Bouches-du-Rhône, mais peut-être aussi ailleurs, vont devenir les espaces de commerce et de flânerie pour les catégories socio-professionnelles les plus aisées. Est-ce que ça, Fabrice Raffin, vous le voyez, ce retour du zoning?
Disons qu'il y a franchement une espèce de naïveté à penser qu'on pourrait faire des espaces publics où toutes les classes sociales se mélangeraient, quoi. C'est un peu un fantasme politique, je le vois beaucoup dans la culture, on imagine les lieux culturels qui doivent être des espaces publics accessibles à tous, démocratisation culturelle, etc. Non, les espaces des villes sont toujours
ségrégés.
La ségrégation est le principe de la dynamique urbaine premier, quoi. Donc on le sait depuis l'école de Chicago, les années 1920, il y a des tas d'études sociologiques là-dessus. Et la mixité, c'est l'exception. La mixité, alors le politique, évidemment, peut se donner comme objectif de travailler la mixité, mais spontanément, on va vers ceux qui nous ressemblent et on va... voilà. Donc, vous voyez, l'exemple de la carte scolaire, par exemple, est assez flagrant en ce sens où on va toujours essayer d'y échapper pour pas rester avec les plus pauvres. Voilà, pour le dire de manière un peu concrète.
Élodie Bitindou, dans les usages, justement, qu'on fait de ces zones commerciales et des centres commerciaux, peut-être même de manière plus large, vous voyez cette forme de spécialisation ou cette sociologie particulière selon les espaces dans lesquels on est, enfin, est-ce que vous avez remarqué ça?
Bonne question. Je ne suis pas encore posé la question à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des préférences qui vont s'opérer au fil du temps. C'est vrai que vous avez des zones commerciales qui sont spécialisées aussi. Vous avez à Marne-la-Vallée, encore une fois, l'autre extrémité, plus à l'est, vous avez le centre commercial de Val-d'Europe.
Oui.
Avec une partie qui est dédiée au luxe, qui attire une certaine population.
Mais parce qu'il y a Disneyland.
Parce qu'il y a du tourisme, voilà. Donc, il y a quand même des spécialisations qui se font. J'ai quand même l'impression que, du fait de cette ouverture, du fait de cette gratuité, d'entrée, il y a un vrai brassage social qui se fait. Et là, pour le coup, encore, si je parle encore avec ma casquette d'habitante, j'ai l'impression de voir plus de mixité quand je suis en banlieue, quand je suis dans les périurbains, quand je suis dans ces centres commerciaux, plutôt que quand je suis à Paris dans la rue, dans l'espace public.
Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord et je voudrais ajouter que, pour nuancer aussi, c'est que toutes ces zones ne concernent pas les mêmes catégories de population. Alors je vais peut-être citer des marques, je devrais pas, mais quand il y a un IKEA, c'est quand même certaines, c'est plutôt les classes moyennes. Quand il y a un Primark, c'est d'autres personnes qui arrivent. Vous voyez, il y a à chaque fois quand même des enseignes qui attirent des milieux sociaux différents. Donc dire avoir une vision dichotomique entre le centre-ville et pour les riches et les zones commerciales pour les pauvres, c'est un peu limité quand même.
Ouais. Pour autant, dans nos pratiques, on voit que Internet est en train de bousculer tout ça. Est-ce que, à terme, il y a une possibilité d'éviter ces friches industrielles que les gouvernements voient poindre avec ces zones commerciales?
L'interview a été intéressante de ce point de vue. En effet, il y a probablement des évolutions d'offres en direction de la culture, notamment, en direction d'autres pratiques de loisirs qui vont peut-être, je fais pas de prospective, qui vont peut-être éviter ça, mais bon, en effet, peut-être que la consommation, là, il parlait surtout, il mettait dans consommation, en fait, l'alimentation et peut-être en bout de course, là, pour le coup, mais je ne sais pas, en fait.
Ouais, on n'a pas pour l'instant, Elodie Bitsindou, de vision assez claire de ce que peuvent devenir, en fait, ces zones, sachant que on parle de centaines de milliers de mètres carrés, donc il y aura bien des morts là-dedans.
Certainement. Je pense que si on veut aller vers une transformation qui est viable, il faudrait peut-être plus faire confiance justement aux usages existants, plutôt que d'essayer d'être toujours dans cette logique de planification par le haut, de vision d'ensemble, de vision unique vers laquelle on devrait aller, vers une certaine image de la mixité d'usage, du logement avec la barre de commerce en rez-de-chaussée. Je pense qu'il faut sortir de ces logiques un peu toutes faites.
Mais comment faire, du coup?
Déjà, je pense commencer par de la recherche de terrain et détecter, déceler les usages, ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle.
Peut-être que les usages, ce seront ces entrepôts de zones commerciales qui deviendront peut-être des entrepôts logistiques où seront tous les cartons qu'on se fait envoyer en 24 heures par des grandes enseignes américaines.
Oui, je pense que à ce niveau-là, je pense qu'on est vraiment dans l'avenir et enfin même déjà dans le présent. Et ce qui est intéressant avec ce système de logistique, c'est que je pense que ça relie les habitants des villes-centres, les habitants du périurbain, les habitants des espaces ruraux. Et je pense qu'on est justement, ça montre qu'on est encore tous dépendants de ces espaces et que on n'est peut-être pas encore obligé encore de les faire muter en ville complète, parce qu'en fait, on a encore besoin de ces hangars, de ces entrepôts, et de plus en plus.
Et ça,
les hangars, les data centers.
Ouais, et ça, c'est ce qui a dessiné effectivement la France, Fabrice Raffin, ces espaces, ces grands entrepôts logistiques sont à côté des autoroutes et à Hénin-Beaumont aussi.
Et d'un moment, oui, on avait intitulé autour de cette zone commerciale les paysages de la mondialisation, en fait, parce que c'est la marchandise qui dessine ces pratiques, ces espaces, c'est notre attrait.
C'est pas la politique, c'est la marchandise.
Le politique y suit très souvent. Je veux dire, si personne ne consommait, ça n'existerait pas. Mais non, on a une appétence vraiment pour ça. Et ils vont de pair très souvent, en effet, avec des espaces logistiques. Et donc, on avait employé une notion de dispositif. Ça fait dispositif entre les infrastructures de transport terrestre, la logistique et les zones de vente. Là, on a du périurbain qui est construit autour de la marchandise et qui est structuré marchandise, automobile, consommation, approvisionnement.
Et c'est là que vous nous dites que ce modèle-là, il n'est pas prêt de s'arrêter.
Ah il va falloir démonter tout ça, alors je ne sais pas, c'est compliqué.
Merci beaucoup à tous les deux, Elodie Bitsindou, on a hâte de lire votre thèse que vous allez soutenir, j'espère, bientôt. Donc, les maisons Lévite, transfert, hybridation, usage et acculturation du modèle Lévite France. Fabrice Raffin, on renvoie à plusieurs articles que vous avez faits justement sur la zone commerciale de Noyelle Godot, autour de la France moche. Pour ceux qui voudraient justement changer un peu d'imaginaire, je vous conseille « Regarde les lumières, mon amour », un livre d'Annie Ernaux qui a passé plusieurs semaines, plusieurs mois au centre commercial Auchan des Trois Fontaines à Cergy où elle vit et qui nous raconte justement d'un point de vue sensible ce que peut représenter cette place de village qui est le centre commercial. Foncez. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique, c'était l'indispensable Dali Yaha. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Notez qu'elle est désormais accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Le lecteur du site et de l'application Radio France vous propose désormais une transcription de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, commenter, réagissez par mail ou sur les réseaux sociaux. On vous lit, on vous répond. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 20h, et très bon week-end sur France Culture.